Bonjour, bonsoir, c'est Manu et je suis très heureux de vous présenter ce nouvel épisode de Radio Cassette. Dans chaque épisode de Radio Cassette, on vous raconte l'histoire d'un disque culte qui a marqué nos années 90. Dans cet épisode, on va parler du chanteur et guitariste Jeff Buckley, sans doute le chanteur le plus important des 90s. Jeff Buckley mélange les genres, se permet tout et tout lui réussit. Sa voix, sa technique, son sens de la mélodie vont donner à son premier album Grace une aura quasi mystique. Malheureusement, ce premier album sera également son dernier, puisque sa carrière fulgurante va s'arrêter brusquement en 97, lorsqu'il sera retrouvé mort, noyé, dans un affluent du Mississippi. Grace sort en 94 avec un succès d'estime plutôt limité, mais transformera quelques années plus tard Jeff Buckley en icône absolue. Entre-temps, Grace est devenu le disque de chevet de toutes les générations du rock, de Bob Dylan à Radiohead en passant par U2 ou Led Zeppelin, sans doute ses plus grands fans. Grace est tout de suite maintenant avec le Cassette Crew. On va vous raconter la story du petit Jeffrey avec Olivia.
Salut Manu.
On sera en studio à Birdsville près de Woodstock avec Grégoire.
Salut la compagnie.
Et on reviendra sur la pochette iconique de Grace avec Fanny.
Hello.
Alors on va commencer par se réécouter l'album en mode Fast and Furious. C'est parti.
It's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 It's never over.
Voilà pour les 10 titres de Grace. Alors c'est le premier et dernier album, album solo de Jeff Buckley. En tout cas de son vivant, parce qu'il y a eu depuis une dizaine d'albums de live au moins, de démos, de face B. Il sort pour la rentrée scolaire le 23 août 1994 en compact disque, cassette, vinyle et mini disque sur le label Columbia chez Sony. Alors à noter qu'il sort au lendemain d'un autre disque assez culte des 90s, c'est le Demi de Portishead.
et le même jour que le premier album d'Oasis aussi.
Ah ouais, 94 c'est une année assez importante parce que c'est vraiment le passage de relais entre le grunge qui disparaît à la mort de Kurt Cobain et puis la house qui sera popularisée un petit peu plus tard avec Daft Punk dès l'année prochaine. Voilà, cette année on écoute en France Coolio, Céline Dion, Scatman et puis la BO du Roi Lion qui sort pour Noël. Alors, on va commencer avec vos souvenirs. Comment est-ce que vous avez découvert Jeff Buckley ? On va commencer par toi, Olivia.
Bah, écoute, Jeff Buckley, pour moi, c'est quand même un grand mystère de mon adolescence parce que je ne me souviens pas de l'avoir écouté quand j'avais 12, 13, 14 ans. Pourtant, tous les voyants étaient allumés pour que je le fasse.
Eh, bah alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que c'est exactement le genre de musique que j'écoutais. C'est exactement le genre de personnalité vers laquelle j'étais attirée. Ce genre de poète maudit, du rock, etc. Pourtant, je ne sais pas. Je me souviens de l'avoir écouté. Je me souviens d'avoir écouté ça avec des potes, etc. Mais en revanche, je n'ai pas été ultra fan comme je peux l'être maintenant.
D'accord, donc t'es toujours passé à travers finalement.
Il y a eu une rencontre qui ne s'est pas faite à l'époque. Elle s'est faite plus tard. Jeff et moi, on s'est rencontrés plus tard.
Okay.
Voilà.
Non, mais c'est clair. Toi, Greg ?
Bah, moi, je pense que c'est des souvenirs de guitariste parce que j'apprenais la guitare à ce moment-là. Et effectivement, à cette époque-là, tous les guitaristes apprenaient Alléluia.
Tiens.
Et ouais, c'est pas un scoop. Et quand tu commences à jouer ça, à le chanter, du coup, t'as vraiment les poils qui se dressent, les frissons. Mmh. Et donc, c'est un souvenir extraordinaire, en fait, de jouer ce morceau et d'avoir les poils qui se dressent et de provoquer des émotions comme ça.
À ton public, déjà naissant, j'imagine.
Oui, tout à fait, même à soi-même. Pour moi, Jeff Buckley, c'est un musicien qui a eu énormément d'influence pour moi. Ouais.
Okay.
Très, très important.
Alors du coup, je m'adresse à toi, Fanny. J'ai un peu peur parce que je sais que tu es assez fan de Jeff.
Oui, alors comme Olivia, évidemment, à l'époque, pile en 94, je ne connaissais pas cet artiste. Je l'ai découvert un peu plus tard, quand j'avais 18 ans, première année de fac. C'était une période de boulimie culturelle assez intense où je me suis forgée quasiment toute ma culture musicale. Et à l'époque, j'étais guidée par deux grands pôles qui étaient les Doors et Jeff Buckley. Buckley, c'est le musicien qui a le plus compté dans ma vie. C'est une âme dont je me sens sœur, un être que j'aime avec un grand A. Et puis avant tout, c'est mon mentor, en fait.
Waouh, disons, putain, c'est impressionnant.
Ouais, grâce à Jeff, j'ai découvert Nina Simone, Van Morrison, Tim Buckley. Il m'a permis de faire le lien avec les Smiths, Cocteau Twins, Dismantle Coil, que j'écoutais déjà à l'époque. J'étais tellement fascinée par lui que pour mieux cerner son œuvre, j'ai voulu aimer ce qu'il avait aimé, écouter ce qu'il avait écouté, parfois avec succès, parfois non. Et puis j'ai un peu poussé le vice plus loin parce que j'étais tellement fan du live à Chiney que ce son de guitare que pour mes 20 ans, je me suis fait offrir une Telecaster pour mon anniversaire.
Oh yes.
Oh la classe.
Oh là là, quoi, jusqu'au bout, quoi.
Mon anniversaire qui tombe le jour de la mort de Jeff Buckley.
Allez.
Et ma guitare s'appelle Jeffrette.
Toi aussi, t'as donné le nom à tes guitares.
Ouais, mais ça, je l'ai dit à personne parce que c'est quand même le nom le plus pourri de la Terre.
Ah, j'avoue.
Bon, j'ai tellement, tellement, tellement d'autres anecdotes. Je sais pas par où commencer. Je pense en vrac, un voyage à New York où je suis allée en pèlerinage à Saint Mark's Place devant le Chiney qui n'existait plus.
C'est vrai ?
Ouais.
Dingue.
Il y avait une meuf que j'avais rencontrée sur un forum de fans qui m'a refourgué sous le manteau des CD et des DVD et gravé avec tous les bootlegs existants. Moi aussi, j'ai fait un exposé sur Jeff Buckley.
C'est vrai ?
Ouais, vous en avez fait un sur Noir Désir ?
Genre au collège ?
À la fac. Non, j'étais à la fac.
Ah, à la fac. Ouais, d'accord, c'était sérieux.
Et mais en cours d'anglais, on avait un sujet libre et puis j'avais choisi Jeff. Voilà.
C'est classe.
Alors, Jeff Buckley, c'est trop bien. Hein, bon. Parce que...
c'était à peu près ça. Ouais.
Moi, je dois quand même vous avouer que j'ai un petit peu peur de parler de Jeff Buckley devant Fanny, qui est quand même la plus grande fan du monde.
Elle dit pas de conneries. Hein.
Je vais essayer de me concentrer et de pas faire trop de bêtises parce que...
Je te reprendrai avec bienveillance.
je crois que c'est pire. Fais-le sauvagement, s'il te plaît.
Ok, écoutez, alors moi, l'histoire de Jeff Buckley, en fait, c'est assez rigolo. C'est une histoire un souvenir de cours de caté. Parce que à l'époque, je devais être en quatrième. Et c'était un jour un père de famille en cours de catéchisme qui vient nous parler du rock'n'roll et des messages subliminaux. Et c'est génial parce que pour nous mettre en garde sur la musique de Satan, en fait, on avait écouté les Beatles, Led Zeppelin et plein d'autres groupes chamés qui étaient censés avoir une mauvaise influence sur la jeunesse, quoi.
C'est horrible.
Ouais. Ce que tu nous racontes là.
Mais attendez, c'est pas terminé. Et il termine En nous faisant écouter un truc génial qui, pour le coup, est super bien, qui plébiscite, c'est le Alléluia de Jeff Buckley sur l'album Grace. Et donc, c'est comme ça que, qu'on m'a présenté pour la première fois.
Tu l'as vendu en mode c'est bien ou en mode c'est pas bien?
Ah, en mode c'est bien. En mode attention, Led Zeppelin, machin, occulte, machin, les messages subliminaux pour Satan et compagnie.
Led Zeppelin, il y a un truc célèbre, je ne sais plus quel morceau, mais il y avait des gens qui avaient passé les paroles à l'envers.
Et c'est ça, c'est sur Stairway to Heaven, bien sûr.
C'est du grand n'importe quoi, ça.
Et donc, rassure-moi, quand il t'a dit de ne pas écouter, toi, t'es allé écouter.
Bah, je connaissais déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était génial de pouvoir écouter les versions à l'envers, etc., que jamais t'aurais pu trouver ailleurs, quoi. Donc, à l'époque, il a fait un gros boulot et je le remercie. Et ce qui est rigolo, en fait, on y reviendra un peu, c'est qu'il nous fait écouter le Alléluia de Jeff Buckley pour son côté un peu sacré. Mais on va voir qu'en fait, le morceau n'est pas si sacré que ça et qu'il y a vraiment un double sens.
C'est pas vrai.
Si. Voilà, pas de spoil. Voilà, donc maintenant on va vous raconter l'histoire tragique de Jeff Buckley et de Grace, son seul et unique album. Alors, pour bien comprendre tous les ressorts de l'histoire, il faut remonter en novembre 1966 en Californie.
Mais tout à fait, mon cher Manu. Jeffrey Scott Buckley naît le 17 novembre 66 à Anaheim en Californie.
Il est scorpion, Manu.
Ah yes, parce que je t'avais demandé, il est quel signe astrologique?
Il m'a chambré l'autre jour et je ne savais pas, je ne suis pas non plus fan au point de
savoir. Mais pourquoi en fait?
Non, pour connaître son thème astral, elle connaît tout, je pense qu'elle a deux doigts. Elle ne nous a pas montré, mais je suis sûr qu'elle a un tatou de
Jeff. Elle a un tatouage Jeff Forever. Donc à sa naissance, ses parents Tim Buckley et Mary Guibert sont déjà séparés. Son père préfère se consacrer à la musique. Son premier album d'ailleurs sort deux jours après la naissance du petit Jeff. Jeff vit donc avec sa mère, puis au bout de quelques années avec son beau-père, Ron Moorhead, dont il parle souvent d'ailleurs en interview par rapport à la grande influence pour les goûts musicaux qu'il a pu vraiment lui
inculquer.
Et absolument lui inculquer. C'est lui qui l'initie au rock et notamment aux Doors et à Led Zeppelin.
Alors, mini parenthèse, hein, les parents, ils sont séparés, mais aussi parce qu'ils sont ados. Ils ont respectivement 17 et 18 ans quand Jeff naît. Donc,
ils auraient pas resté.
C'est pas la période où les couples sont les plus solides.
C'est pas faux. Donc, je vais quand même pas vous raconter son enfance dans les moindres détails, mais je pense qu'il faut un tout petit peu quand même s'attarder sur sa relation avec son père Tim. Mon master en psychologie d'autoroute me permet d'affirmer que le petit Jeff s'est construit et surtout déconstruit autour de la figure de ce père absent. Ça, c'est sûr. Jeff l'a d'ailleurs pas du tout connu. Tim meurt en effet d'une overdose le 29 juin 75 à 28 ans, alors que le petit Jeff, lui, n'a que 8 ans. Il se voyait très peu, Jeff n'est même pas convié à ses funérailles. Il l'a quand même vu une fois en concert, deux mois avant la mort de Tim.
C'est dur, hein, franchement, pour faire un deuil, c'est compliqué. Hein.
Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, Tim Buckley a quand même enregistré deux chansons qui évoquent son fils, Dream Letter et I Never Ask to Be Your Mountain. On va d'ailleurs s'écouter un petit extrait, vous allez voir. Très vite, Jeff se passionne donc pour la musique. Il commence à jouer dans différents groupes, fait des études au Guitar Institute of Technology à Los Angeles. Il se lance d'abord dans le jazz fusion, dans le reggae, dans le hard rock. Bref, en gros, tout ce qui va pouvoir le distinguer le plus possible de son père.
Et surtout, il chante pas du tout à l'époque. Il fait que de la guitare, on n'entend jamais sa voix.
Ok, mais c'est un gros guitariste. Il a appris la guitare à 5 ans. Ouais. Il décide d'être musicien à partir de 12 ans, je crois. J'ai vu ça.
Non, il était d'abord reconnu comme guitariste virtuose.
Alors, il sera malgré tout très vite rattrapé par le lourd héritage de son père, car sa carrière, elle, démarre vraiment à la suite d'un concert hommage à son père.
Absolument. Greeting from Tim Buckley est organisé en avril 91 à l'église Sainte-Anne de New York. Hal Wilner, l'organisateur, prend contact avec Herb Cohen, qui est donc l'ancien manager de Tim Buckley, qui lui parle du talent de Jeff Buckley, qui finit donc par être invité à jouer à ce concert. Hal Wilner lui présente rapidement Gary Lucas, qui est donc l'ancien guitariste du groupe Captain Beefheart, avec l'idée de les faire jouer ensemble durant le concert. Hal briefe d'ailleurs Gary dans ce sens. Si le petit sait pas chanter, va falloir l'aider un peu. Évidemment, le miracle se produit. Non seulement Jeff sait chanter, mais sa voix vaut de l'or. Et deuxième choc pour les anciens amis de son père, quand Jeff apparaît dans l'église, il est le portrait craché de Tim. Le jour du concert, le 26 avril, Jeff et Gary jouent ensemble trois morceaux, dont le fameux « Never Asked to be your mountain » qu'on vient d'écouter, chanson avec laquelle Jeff Buckley a toujours entretenu des rapports très ambigus.
Alors, je vais vous faire Jeff. Je suis mentionné dans la chanson, tout comme sa petite amie de l'époque, ma mère. C'est une chanson magnifique que j'admirais et que je haïssais à la fois. Et c'est pour cette raison que c'est celle que j'ai chantée aujourd'hui.
Sa voix et sa sensibilité impressionnent évidemment le public. Il vole la vedette à tous les autres musiciens invités. Ce fils inconnu de tous a la voix qui ensorcelle. Après ce concert, Jeff Buckley revient rapidement à New York pour plusieurs raisons. Gary Lucas, qui a adoré leur collaboration, lui propose de chanter dans son nouveau groupe Gods and Monsters.
Alors moi, je voudrais juste revenir deux secondes sur l'histoire de ce mec-là. Avant, il était dans Captain Beefheart. C'est un groupe qui est ultra important pour tout le punk et toute la scène New Wave qu'il y aura après. Un groupe super underground qui va pas du tout marcher, mais qui est ultra culte. Et à côté de ce groupe-là, t'as Frank Zappa, t'as plein de gars comme ça. Donc pour Jeff, de jouer avec ce gars-là, c'est un truc de dingo, quoi.
Donc Jeff commence à se produire seul sur scène. Il découvre un petit bar irlandais au nom de Chiné dans le Lower East Side de New York, qui accueille d'ailleurs parfois les musiciens du quartier. Jeff y joue pour la première fois en avril 92. Il s'y sent rapidement chez lui. Chendel, le patron, lui propose de venir chanter tous les lundis. Jeff y joue quelques-unes de ses compositions, Mojo Pin, Grace, Eternal Life et Unforgiven. Mais surtout, beaucoup de reprises de ses idoles. Bob Dylan, Nina Simone, Joni Mitchell, Van Morrison et surtout, les Doors.
Hello, any vibe dial? Some vibe, man, need some vibe, lots of vibe. Check, check, no, like Jim Morrison... Light reverb. This is a night beautiful fun. Jeff, yes, Sony.
On a envie d'y être. Hein.
Ça me fait tellement plaisir d'entendre ces petits monologues sur le live à Chiné qui sont des pépites de drôlerie, des petits moments de vie hyper touchants. Ouais.
Ouais, ça lui donne un autre visage en fait. Ouais, c'est pas que le mec dépressif qu'on peut penser parfois.
Non, pas du tout. Et puis il y a 15 ans, comme j'étais fan des Doors en même temps que lui, entendre ça ce truc-là, bien. C'était trop cool. Quoi.
Alors c'est aussi à ce moment donc à Chiné qui commence à chanter Alléluia, la fameuse reprise de Leonard Cohen. Il y a un énorme buzz autour de ce type génial au Chiné. En fait, le bar, pour bien qu'on comprenne le truc, il est minus. Il y a une partie du public qui est elle debout sur le trottoir pour essayer d'essayer de l'apercevoir. En fait, ça devient la grosse attraction du Lower East Side.
Mais absolument, et même d'ailleurs, tous les directeurs artistiques des grandes maisons de disques se précipitent pour le voir jouer. Il reçoit plusieurs propositions et après de nombreuses hésitations, il finit par signer un contrat avec Sony Music sur le label Columbia. Le fait que son idole Bob Dylan soit dans cette maison a certainement été déterminant, ça c'est sûr. Mais Columbia va aussi être la seule à accepter les conditions de Jeff en termes d'argent et surtout de liberté artistique. Une fois le contrat signé, les choses ne vont pas démarrer tout de suite. Jeff veut prendre son temps. Ça finit par avancer un peu en juillet 93 quand Columbia décide de l'enregistrer en concert au Chiné. Un premier essai est fait le 19 juillet, mais sa prestation n'est pas terrible. Jeff est nerveux car, ben, en fait, tout le public est composé de gens de chez Columbia.
Ah ouais, du coup, la pression, quoi.
Un peu, ouais. Le 17 août, une deuxième tentative en petit comité, cette fois-ci, se passe bien. Jeff Buckley retrouve l'ambiance de ses concerts. Un EP du concert sort le 23 novembre.
Alors, nous sommes en 94, grande année. Jeff, lui, il va préparer l'enregistrement de son premier album. Il recrute les musiciens qui vont l'accompagner. Et il continue en parallèle à jouer en solo tous les lundis, à chiner toujours, jusqu'au mois d'août. Le 16 août 94, il va donner son concert d'adieu. Et quelques jours plus tard, le 23 août, l'album Grace sort aux États-Unis.
Grace reçoit un très bon accueil critique, plus encore en Europe qu'aux États-Unis. Le succès est absolu. Disque d'or en France, en Australie et aux États-Unis, Grace recevra les louanges de Jimmy Page, mon disque préféré de la décennie. C'est pas rien quand même.
Bah, venant de lui en plus, je crois que c'est en plus son idole absolue. Donc
c'est sûr. Il reçoit les louanges de Bob Dylan, de David Bowie, qui l'a élu disque à sauver et à emporter sur une île déserte. Bono compare Buckley à une goutte de pureté dans un océan de bruit.
C'est beau.
C'est très beau. Évidemment, ce poète déglingué, beau comme un dieu, qui porte son charisme comme un fardeau et la mélancolie en étendard, ben, ça va beaucoup nous plaire en France. Dans Les Arocs, Jill Torgeman écrit en 94.
Pas besoin de 36 écoutes pour deviner que ce Prométhée stupéfait ira aussi loin que sa course à l'abîme le lui permettra. Il est de ceux qu'André Suarez nommait les grands vivants. Ceux pour qui la sensation d'exister ne se goûte que sur fond de risque permanent. Il est de ceux qui vont trop loin. Tout son disque proclame une logique de l'outrepassement, où le beau et le laid, le bien et le mal n'ont plus cours. Jeff Buckley est au-delà du goût. La transe n'est pas prosélyte. On peut choisir de ne pas y entrer pour goûter ailleurs des plaisirs plus raisonnables. Il est dès lors parfaitement concevable de ne pas entrer chez Jeff Buckley. Mais il faut savoir ce que l'on perd. Une certaine qualité de vertige sauvage, une cruauté de la joie, une algèbre des extrêmes.
Algèbre des extrêmes,
c'est hyper beau.
Le mec, il est lyrique, c'est dingue. Ouais. On dirait François Mitterrand qui va faire, son discours aux Invalides.
Entre ici, Jeff Buckley.
C'était à l'époque où il existait encore de la critique rock.
Oh,
allez,
c'est très bien. Non, mais tu vois, c'est lyrique, c'est génial. Mais ça, c'est perdu. Il n'y a plus ça sur Internet aujourd'hui.
Je lis ça. Bon, on est en 94, moi j'ai 10 ans, mais je lis ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai foutu à l'époque? Pourquoi j'écoutais pas Jeff Buckley?
Moi, je me dis,
10 ans, t'écoutais Jordi, je sais pas.
Non, mais c'est hyper beau. C'est pour ça que je voulais mettre tout le passage. Je trouve que c'est vraiment très beau.
Je te vois en classe, c'est le. Monsieur.
Ça veut dire quoi? Promettez.
Non, j'étais très douée à l'époque. La critique parle aussi beaucoup de ces concerts qui prennent aux tripes et retournent la tête. Il n'y a qu'un seul album à défendre, mais chaque soir, les morceaux sont joués différemment, avec de nouveaux arrangements. Sur scène, Jeff est habité, possédé, complètement en transe, et le public est sous le charme, évidemment. On n'a pas vu ça depuis longtemps, depuis Janis Joplin, peut-être. Mais Jeff s'épuise. En un an de tournée, il donne 207 concerts. Il n'arrive plus à écrire. En juillet 95, il explique aux Arocs.
Alors, depuis l'année dernière, je n'ai pas été capable d'écrire une seule chanson. Toujours en tournée, pas moyen de prendre la moindre distance. Je me sens cheap et inutile. Il faut que je me remette à écrire. Quand je me vois, j'ai honte, je ne suis plus qu'un pantin traîné de salle en salle.
Ça fait mal au cœur. Hein.
2 ans qu'il tourne maintenant, il est rincé. La machine commence à le broyer. Sa maison de disques lui met déjà la pression pour qu'il enregistre rapidement un deuxième album. En effet, à la fin de l'année 95, Grace s'est vendue à 750 000 exemplaires dans le monde, dont 180 000 exemplaires aux États-Unis. Mais Columbia aurait avancé près de 2 millions de dollars, si bien que les ventes de l'album ne lui permettent pas de rembourser intégralement sa maison de disques. Il doit donc éponger ses dettes.
C'est dur quand même, parce que attends, mais c'est énorme quand même. 180 000 exemplaires aux États-Unis puis 750 000 dans le monde, c'est juste
c'est
dingue.
Déjà conséquent. Mais...
Moi, j'aimerais bien voir d'où ça coûte en fait les 2 millions. En fait, il y a quoi derrière? C'est dingue.
Non, en fait, moi, je ne connaissais pas du tout ce système des maisons de disques où en fait l'argent est avancé à un artiste et ensuite c'est l'artiste qui doit rembourser.
Et encore, apparemment, il a bien négocié, Jeff, parce qu'il ne prend que la moitié, alors que les premiers albums, en général, c'est l'artiste prend toute la promo à sa charge. Ouais. Et lui a quand même bien géré le truc.
Et enfin, en fait, son avocat. Manu, c'est tous les frais de tournée, c'est les frais de studio. C'est-à-dire que quand tu loues studio 10 000 dollars la journée, les 10 000 balles, c'est pour la gueule de Jeff, tu vois. Et en fait, tout ça s'additionne, les frais de les tournages des clips. C'était des centaines de milliers de dollars. Et à la fin, on lui dit, bah, en fait, Coco, là, tu nous dois 2 millions. Donc le mec, tu m'étonnes qu'il est...
La pression
ouais,
était
moi,
pas,
moi, je t'envoie, je te fais un audit là-dedans, je fais tout péter. Hein. non, mais...
allez lire ce que Kanye West vient de dire sur les maisons de disques, c'est assez intéressant.
Le rythme, la pression vont venir aussi à bout de son batteur, Matt Johnson, qui commence à avoir des problèmes d'oreille à cause du volume sonore des concerts. Et puis, il ne supporte plus le mode de vie excessif de Jeff, qui boit trop, fume trop et se drogue trop. Début 96, Matt quitte le groupe. C'est une déchirure terrible pour Jeff et un tournant pour le groupe.
Alors, c'est vraiment pas de bol, quoi. Le mec, il cartonne et pourtant, c'est toujours pas assez bien. Il faut se remettre au travail. Et on choisit, pour ce deuxième album, de faire appel à Tom Verlaine. Tom Verlaine, c'est le chanteur du groupe Television, groupe ultra culte.
Donc oui, absolument. La première session d'enregistrement de My Sweetheart the Drunk est un échec. Les conditions sont difficiles, le temps est limité et Eric Idle, le nouveau batteur, ne suit pas. Le moral de Jeff est au plus bas, il décide de faire un break.
Alors, c'est à peu près à ce moment-là de la carrière de Jeff Buckley qu'elle va s'arrêter brutalement. On va le retrouver mort, noyé, dans le Mississippi.
Nous sommes le 29 mai 1997. Le groupe prend l'avion pour rejoindre Jeff et enregistrer de nouveaux morceaux. En attendant leur arrivée, Jeff part se promener au bord de la Wolf River, un affluent du Mississippi, avec son ami Keith Foti. Il décide de se baigner tout habillé. Après le passage d'un bateau, Jeff disparaît. Son corps sera retrouvé 6 jours plus tard. Il avait 30 ans. Aujourd'hui encore, les circonstances de la mort de Jeff ne sont pas tout à fait claires. On sait qu'il traversait une période de dépression, mais on sait aussi, surtout, que ce projet de deuxième album lui donnait un nouveau souffle. C'est la raison pour laquelle la thèse de l'accident a toujours été privilégiée.
Moi, je trouve que c'est vraiment quand même un gâchis de dingue, quoi. Le mec qui est en train de breaker, qui a un talent de fou, enfin, tu vois, qui est encensé juste par les légendes du rock, le mec qui est historiquement à sa place à ce moment-là, bam, le truc est complètement débile, quoi. Et alors, toi, Fanny, qui a tout vu sur Jeff Buckley, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est vraiment un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? C'est quoi?
Bah, un meurtre, non, à moins qu'ils aient engagé le même commando qui a commandité le meurtre de Tupac et de Kurt Cobain.
Mais ah ouais, c'est un commando qui...
Sur une île déserte.
Oh, ouais. Légendes urbaines. non, évidemment, c'est un accident. Je ne vais pas non plus faire de la psychologie d'autoroute, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'aucun de nous n'y était. Mais ce qui est, y a une des amies que Jeff Buckley voyait énormément quand il passait son temps à Memphis. office qui s'en est voulu en disant qu'en gros, elle l'avait prévenu de tous les sales trucs qui pouvaient lui arriver dans cette ville, sauf personne ne l'avait prévenu que cette rivière était extrêmement dangereuse. Mmh. Tous les locaux savaient très bien qu'il y a des courants extrêmement traîtres et qu'il y avait des noyades. Et donc, aucune personne de Memphis ne s'y baignait. Et Jeff, lui, bah, il était de passage, il ne savait pas. Et voilà,
ouais, mais en même temps, tu vois, elle se dit, je m'en veux de ne pas lui avoir dit, mais tu ne dis pas non plus tout ce qui peut arriver de pire dans une ville à un mec qui arrive à Memphis.
Enfin, et pour moi, l'histoire que j'ai toujours entendue, c'est qu'il était ivre et il s'est noyé parce qu'il picolait trop et qu'il se défonçait trop à cette époque.
Je sais, ouais, bah je peux.
Toi, tu dis que les analyses toxicologiques. non, c'est ça que tu disais.
Je n'ai pas lu le rapport du médecin légiste, c'est ça que tu demandes.
Le rapport d'autopsie.
Mais oui, apparemment, ils n'avaient pas trouvé de traces ni de drogue, ni de.
D'accord.
Semble sortir, c'est que c'est quand même pas un suicide, parce qu'il avait quand même ce projet qu'il le portait, avec des choses nouvelles qui allaient arriver.
Il appelait tous ses musiciens, il appelait tous ses proches en disant que ça y est, il avait enfin trouvé le son qu'il cherchait depuis des mois, que ces bandes démos de les quatre pistes sur lesquelles il bossait tout seul dans sa petite maison, c'était exactement ce qu'il avait toujours attendu, et il était très très enthousiaste à l'idée d'enregistrer des nouveaux morceaux. Donc y avait absolument aucune raison à ce moment-là qu'il disparaisse, si ce n'est qu'un un putain de destin de dingue fait que son père meurt à 28 ans
et
lui a 30 ans, quoi.
C'est ouf. Je crois que le mystère reste entier, on va pas le résoudre ce soir. Alors c'est maintenant le moment de passer à l'enregistrement de l'album avec toi, Grégoire. Un album qui aurait pu être assez différent de celui qu'on connaît, parce que l'idée première, c'était de faire un disque simplement avec Jeff, sa voix et sa guitare, quoi, c'est ça?
Oui, on en a parlé avec Olivier. Jeff Buckley commence véritablement à attirer l'attention de l'industrie musicale grâce à ses performances au Chiné, ce bar de New York dans lequel il se produit, des concerts qui donneront lieu à son premier EP live à Chiné. Et donc, pour la suite des opérations, sa maison de disques, Columbia, pense à sortir un album où Jeff jouerait en solo, une sorte de live à Chiné, mais en beaucoup mieux produit. Sauf que Jeff Buckley a d'autres envies. Il hésite, tarde à entrer en studio. En fait, il faudra presque un an à Jeff Buckley pour enregistrer Grace. Finalement, il se décide à abandonner son numéro de cabaret pour créer un groupe de toutes pièces pour l'accompagner. En l'occurrence, deux jeunes musiciens locaux, Mike Grandal, bassiste de 17 ans seulement, et Matt Johnson, un jeune batteur inconnu au bataillon. Ça semble quand même plutôt culotté au premier abord de prendre des musiciens avec assez peu, voire aucune expérience studio, mais l'entente entre les trois hommes est super et le feeling musical est au rendez-vous. Jeff rappelle également son ancien compère de Gods and Monsters, le guitariste Gary Lucas, qui lui a composé les parties instrumentales de morceaux qui deviendront Grace et Mojo Pin, le titre qui ouvre l'album.
Precious silver and gold and pearls and oysters flesh drop down.
Alors c'est à la fin de l'été 93 que les choses sérieuses commencent après 6 semaines de répétitions intenses.
Oui, c'est à ce moment-là que Jeff Buckley et ses musiciens entrent au studio Bearsville à Woodstock, à 2 heures de route de New York. Et on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment prêts. En fait, lors de leurs répétitions, ils ont passé plus de temps à jammer et à improviser des longues plages de musique que de mettre en boîte des morceaux figés.
Ouais, donc ils ont rien branlé, quoi.
Ouais, c'est pas qu'ils ont rien branlé, mais si tu veux, pour Jeff Buckley, ce qui est important, c'est de se connaître, en fait, en tant que musicien.
Ouais, donc il faut
et c'est
jouer,
pas
quoi.
Forcément une approche très professionnelle, c'est plutôt une approche...
De feeling.
Ouais, de feeling et une approche très spirituelle. Hein. Enfin, je sais pas, c'est...
Et une approche jazz, où Jeff change les arrangements des morceaux en cours de route et il peut enregistrer un morceau 5 fois et 5 fois, ce sera 5 choses différentes.
C'est ça, on en a pas encore parlé, mais Jeff Buckley, c'est quelqu'un qui a une culture musicale extrêmement vaste et importante. Et c'est vrai qu'il a l'habitude de donner plusieurs versions des morceaux. Effectivement, l'influence du jazz est très importante pour lui.
Ce qu'il fera sur scène, d'ailleurs, après.
Exactement, ouais. Exactement. Et donc, les débuts sont un peu hésitants, d'autant plus que, comme on le disait, donc Jeff a l'habitude de donner plusieurs versions de ses morceaux. Il est extrêmement perfectionniste, hein, et par exemple, il a enregistré plus de 20 fois Alléluia, et il n'est toujours pas satisfait de la version choisie sur l'album, explique Stan Cuesta dans la biographie qu'il consacre aux musiciens. On le voit d'ailleurs dans un documentaire, hein, je crois que c'est Amazing Grace, où Jeff Buckley explique qu'en live, c'est la vérité de l'instant qui parle, mais cette fois en studio, il faut graver des émotions pour l'éternité, et bah, qu'il n'est jamais trop sûr de ce qu'il faut garder ou pas. Heureusement, pour contenir ses ardeurs créatrices, Columbia a choisi Andy Wallace, le mixeur de Nevermind de Nirvana, ingénieur du son exceptionnel, qui a bossé aussi bien pour Rage Against the Machine que pour Slayer ou encore Prince.
Et si vous écoutez Radio Cassette, vous avez écouté son nom plusieurs fois, on le kiffe ici, il a vraiment marqué les 90s, quoi.
Ouais, c'est quelqu'un de très très important. Donc au menu de Grace, un son rock assez classique dans ses années 90, à base de guitare flanquée d'effets chorus, de reverb et de delay, un son ample comme dans ce mix du célèbre Alléluia, avec cet effet cathédrale, comme on dit, obtenu en doublant la guitare, une à droite, une à gauche, et en même temps une impression d'intimité et de proximité grâce à des micros positionnés très près de la guitare fétiche de Jeff Buckley, une Fender Telecaster de 1983, pas un instrument exceptionnel, hein, faut le dire tout de suite, hein, les Telecaster des années 80, c'est pas réputé pour être des instruments exceptionnels, mais Jeff Buckley savait la faire sonner parfaitement, et on l'écoute tout de suite.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing.
Donc là, on vient d'entendre l'une des reprises de l'album, en l'occurrence celle de Leonard Cohen, un titre que Jeff Buckley a découvert grâce à la version qu'en a donnée John Cale en 1991.
Alors là, je te coupe parce que c'est assez marrant, on en parlait tout à l'heure vite fait, mais ce Alléluia de Leonard Cohen, en fait, c'est hyper drôle parce que c'est un texte qui est érotique au départ et qui est devenu l'un des chants de Noël préférés, quoi. C'est en fait c'est une sorte d'incantation mystique qui est suggérée par le titre Alléluia, avec des références bibliques qu'on trouve dans les paroles, mais en fait c'est une ode érotique à l'amour charnel, clairement. Et pour Leonard Cohen, il y avait pour lui un lien évident parce que la sexualité reste liée à l'obsession du péché originel. Et alors, il y a quelques strophes dans cette version finale de Leonard Cohen et dans la version de John Cale ou de Jeff Buckley, mais il y en avait plein. En fait, il en a fait 50 ou 80 des strophes Leonard Cohen. Et clairement, enfin, il n'y a plus de doute du tout sur l'ambiguïté du message, quoi.
Écoute, tu viens de m'apprendre quelque chose.
Ah bah ouais, j'ai découvert ça en bossant sur le truc, je trouve ça fou, quoi.
Bon, en tout cas, dans Grace, il y a 3 reprises en tout. Lala Quine de Nina Simone et Corpus Christi Carol du compositeur Benjamin Britten. À l'origine, l'album ne devait contenir d'ailleurs que des reprises, car Jeff Buckley manquait alors cruellement de compositions originales. Mais bien heureusement, de nouveaux morceaux vont émerger pendant la période de gestation de l'album, comme l'excellent Dream Brother, sur lequel Jeff joue des tablas. Il faut savoir que la musique indo-pakistanaise était une grosse influence, une grosse source d'influence pour le musicien. Grand admirateur de Nusrat Fateh Ali Khan.
Il disait que c'était son Elvis.
Ah ouais, carrément. À noter également sur cette influence, sur la question de cette influence orientale, hein, les somptueux arrangements de cordes de Carl Berger sur Grace, qui donne une sonorité un peu à la Cachemire, ce morceau de Led Zeppelin. Led Zeppelin, là encore, une grande influence pour Jeff Buckley.
Ouais, c'est clair. D'ailleurs, on n'en a pas du tout parlé, Grégoire, mais évidemment, le mix d'Andy Wallace, lui, laisse toute la place à la voix de Jeff Buckley.
Oui, les performances vocales de Jeff Buckley sur l'album sont juste hallucinantes, hein, tout comme ses parties guitare, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en écoutant ces moments où sa voix prend des airs de cri, de douleur et de lamentation, on ne peut s'empêcher de penser à son père Tim. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Sweet Surrender sur le formidable Greetings from LA du regretté Tim Buckley, sorti en 1972. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Jeff, Tim, même
ouais,
combat.
Kiffe, hein.
Voix de ouf. Ouais.
C'est, ah
ouais.
La, c'est voix de malade. Hein. La même voix, hein. C'est fou.
Ouais.
Hein.
Ils ont le même visage, ouais. Ils ont la ouais. même voix.
C'est fou.
Et apparemment, ils avaient en plus hérité cette voix du grand-père.
Ah ouais.
Le,
ah ouais.
Père,
ah ouais.
le père de Tim, c'était un,
Putain,
un Irlandais.
Bouclés,
ils avaient tous de père en fils une voix de ténor de 4 octaves de
c'est
ouf.
Fou.
Quoi.
Alors ouais, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Les 4 octaves, c'est quelque chose qui est assez dingue. Parce qu'on compare souvent la tessiture de la voix avec celle des ténors comme Pavarotti. C'est-à-dire que le gars, il est capable de passer dans 4 octaves
Incroyable.
Différentes. C'est quand même
Incroyable.
Fou. Quoi.
Mais
enfin, surtout dans le rock en général.
C'était un musicien exceptionnel. Hein. Il était capable de lire la musique.
Ouais,
je sais pas s'il avait l'oreille absolue, mais
ouais.
je crois qu'il avait l'oreille
il
absolue.
Il entendait un morceau une fois, il le rejouait à la guitare.
Il pouvait le rejouer immédiatement. Ouais. Il chantait un truc de malade.
Mais imagine... c'est mieux que Shazam, le mec. Quoi.
Imagine quand il a débarqué dans cette église. Il n'était pas connu. On fait un concert en l'honneur de son père. Le gosse, il a la même gueule, il a la même voix.
Mais c'est ça qui est surprenant, c'est-à-dire qu'il avait des capacités musicales exceptionnelles et qu'il a mis beaucoup de temps, ça a mis beaucoup de temps avant que ça émerge et que ça devienne public. Et il a retenu ça pendant
Mais
très très longtemps.
Mais je pense qu'il était aussi très englué dans l'héritage de son père.
Ouais,
ça a
bien
été
sûr,
difficile
bien sûr.
De se défaire. Tu vois, quand il a essayé de faire du reggae, quand il a essayé de faire du hard rock, finalement, il a tout fait pour se détacher le plus possible.
Craig, il y a aussi un truc qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a un morceau qui va passer à la trappe et qui va être remplacé au dernier moment par So Real, le cinquième titre de l'album.
Oui, et ce titre qui va disparaître de la version finale de Grace, il s'appelle Forget Her. En fait, on est quasiment à la fin de l'enregistrement. Jeff Buckley déborde d'énergie créatrice et il compose sur le pouce une ballade rhythm and blues sur une rupture amoureuse qui s'appelle Forget Her. Steve Berkovitz, son producteur, flaire immédiatement le single qui va faire un carton. Mais Jeff Buckley est réticent, alors peut-être parce que ce titre est un peu trop impudique et désigne trop clairement sa séparation avec Rebecca Moore, une jeune femme qui va avoir une importance considérable dans sa vie, ou peut-être que lui aussi comprend le potentiel commercial du titre et s'inquiète d'une célébrité soudaine qu'il aurait du mal à supporter. Quoi qu'il en soit, ce titre est à retrouver dans l'édition Legacy de Grace, sortie en 2004.
C'est marrant parce qu'il y a un lien entre le Jeff Buckley et Radiohead et que cette histoire-là d'avoir un titre qui est un tube potentiel
ouais.
qui pourrait dénaturer en fait son idée qui se fait du propre
c'est
succès,
vrai, computer.
C'est la même quoi.
Ouais.
Et ouais, c'est drôle. Mm-hmm. On va s'écouter Forget Her.
All the noise is dying. streets to stop my weeping, 'cause she'll never change her ways. But don't fool yourself, she was heartache from the moment that you met her. My heart feels so still as I try to find the will to forget her somehow. Oh, I think I've forgotten her now.
Wow, je connaissais pas ce titre. C'est hyper cool, c'est
trop
hyper
bien. Trop
bien.
Trop
bien.
Ouais.
Ouais,
magnifique.
Bien, donc ça c'est sur la version Legacy, donc c'est en gros c'est la ressortie de l'album quelques années plus tard avec du coup plein de face B, donc ce morceau inédit mortel. Alors merci Greg pour tout pour toutes ces infos. Alors c'est vrai que Forget Her aurait pu cartonner auprès du public, mais comme on va le voir tout de suite avec toi Fanny, Jeff aime prendre lui les chemins de traverse quoi.
Ouais, alors avant de parler de la pochette et des clips comme on fait d'habitude, j'ai envie d'aborder un aspect un peu particulier dans la gestion de l'image de Jeff Buckley. Alors c'est la première fois en faisant des recherches que je tombe sur un truc du genre, donc à mon avis ça mérite d'être souligné. Avant même la sortie de Grace, Jeff et ses managers George Stein et Dave Lowry décident d'imposer à Columbia un plan marketing très différent de ce qui se fait d'habitude, où on lance les nouveaux artistes en grande pompe. C'est un document de 14 pages qui demande basiquement à Columbia de se conduire en petit label indépendant qu'il n'est pas. Par exemple, Jeff n'accordera d'interview qu'à des fanzines alternatifs, interdit d'ailleurs de poser des questions sur son père ou sur sa vie privée. Il doit commencer par jouer dans des petits clubs avant d'aller dans des salles plus grandes. On envoie d'abord les chansons aux radios étudiantes avant les radios commerciales. En gros, il voulait que l'album grandisse progressivement avec le temps plutôt que de caracoler direct en tête des charts. Et pour ça, plutôt que sur l'image, Jeff mise tout sur le contact direct avec le public, comme on l'a dit tout à l'heure, à travers une tournée fleuve et le bouche à oreille qu'elle peut apporter. Alors un aspect très notable de ce plan marketing pour moi, c'est la volonté de ne pas trop exposer Jeff, notamment à travers des clips promotionnels. Dans la biographie Dream Brother écrite par David Brown, on peut lire « Bien que Jeff soit ouvert à la discussion, il est en principe opposé à toute vidéo tirée de l'album, ce qui donnera au public une chance de se servir de sa propre imagination et de ne pas avoir d'idées préconçues de Jeff et de sa musique. MTV doit être traité avec méfiance. »
Ah ouais.
C'est étonnant,
ouais,
c'est fou.
Ah ouais, non,
hein.
C'est fou. Non, mais c'est l'inverse de l'épisode ouais. qu'on a fait le mois dernier sur Britney Spears.
Ouais, c'est... on est loin.
Ah grave. Mais d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui explique que l'album n'est pas si bien marché, qu'il se retrouve criblé de dettes. C'est que quelque part, il a signé dès le départ le fait qu'il voulait pas que ça marche, en tout cas, pas prendre...
Pas les mêmes codes que d'habitude, en tout cas.
Pas les mêmes codes.
Il faut aller plus lentement.
Plus lentement, mais en même temps, tu commences par faire des tout petites salles, etc. C'est plus long. Plus compliqué.
Ouais, mais Jeff, il avait un problème avec son image. Il supportait pas en fait qu'on l'appelle joli garçon.
Ouais.
Et par exemple, en 95, il avait été élu un des 50 plus beaux mecs d'Amérique par le magazine People. Et en
il
fait,
a très mal vécu.
Ouais, il a très très mal vécu. Et après, enfin, dans d'autres lives, il demandait sur scène, il dit ouais, ils m'ont comparé à Matt Dillon, mais vous trouvez que je ressemble à Matt Dillon, moi, enfin genre n'importe quoi, tu vois.
Mmh. Ah ouais. Mmh. Et t'es sûr qu'il en profitait quand même pas un peu d'être joli garçon à la fin des concerts avec les groupies.
Il y avait...
Non, t'as pas ce genre d'anecdote là.
En tout cas. Le truc qui ressort de ce qu'on a pu lire à la préparation, c'est qu'il vivait ça comme un fardeau. C'est limite, il aurait préféré, pour mettre en avant sa musique, c'est limite, il aurait préféré être moins beau.
Mmh. Et là, je trouve ça assez, assez troublant, les similitudes entre lui et Kurt Cobain, qui est un autre spécimen des 90s que je connais bien. Ouais, et d'ailleurs, en fait, dans son tourbus, Jeff, il avait une photo de Kurt qui était pour lui un petit peu un modèle d'intégrité. Je trouve ça assez intéressant.
Alors du coup, pour reboucler, donc tu disais que MTV devait être traité avec méfiance, et pourtant il y a quand même des clips qui ont été tournés, non?
Ouais, exact, il y en a eu deux, un pour Last Goodbye et un pour So Real. Début 95, Jeff avait obtenu beaucoup de presse favorable à la fois pour sa tournée et la qualité de son album, mais malgré des chiffres de vente corrects, l'album n'est toujours pas dans le classement Billboard, donc tout le monde s'est mis d'accord pour sortir un single entre guillemets accessible.
Ah bah voilà.
Accompagné d'un clip, le morceau choisi est Last Goodbye.
Mmh.
this is our last goodbye. I hate to feel the love between us die, but it's over. Just hear this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know.
Jeff accepte le tournage à la seule condition que ce soit ses amis, la photographe Mary Sear et le metteur en scène John Jezurin qui s'en occupent. Columbia se plie à sa demande, comme très souvent, mais Jeff va leur compliquer la tâche puisqu'il conceptualise ce qu'il appelle une anti-vidéo. La photographe Mary Sear déclare
« Les vidéos et ce qu'elles représentent, c'est de la publicité. Et ce qu'elles vendent, c'est un produit. Ils ne voulaient pas être le produit. »
Ouais, alors donc pour qu'on le voit sans le voir, Jeff limite le nombre de plans dans lesquels il apparaît. Le clip montre le groupe en train de jouer Last Goodbye en playback pendant qu'une série d'images symboliques défile derrière eux comme des fleurs, la lune, des éclairs, de l'eau, du feu et des portraits oniriques de Jeff. C'est lui qui a choisi toutes ces images. Mais le tournage ne se passe pas très bien. On l'a ajouté au planning de tournée déjà chargé du groupe qui se trouve alors en France. Et c'est chez nous, Cocorico, que la vidéo est tournée dans un entrepôt. On est début janvier, quelques jours avant le concert donné au Bataclan. Le groupe est lessivé. Ils arrivent tous mal rasés, mal fagotés, l'air complètement blasé. Si vous regardez bien la vidéo, d'ailleurs, ça se voit complètement. Et dans le livre de Mary Sear, A Wish for Song, le manager George Stein fait cette remarque.
Oh merde, on l'a perdu.
On a perdu Greg Sauvage.
Mais j'ai faim.
Alors, avis de recherche. Okay. Attendez, je vais appeler, okay. Je vais appeler les
filles. Ok, c'est bon. Arrête.
Bon, lis-le, Manu.
Excuse-moi.
Il est faut que tu me relances parce que t'as demandé.
Ok, c'est bon. Tout du long, il était prêt à dire merde à l'industrie.
On fait avec Manu.
Ok.
Il dort.
Ok.
Non, mais Greg, c'est bon. Attends, je vais couper ton micro. Tu diras juste bye bye à la fin.
Oh, ok, arrête. Ok.
Ah, bon, vas-y, Greg, on fait Manu.
Vas-y, Manu.
Putain, alors, bon.
Oh merde. Oh putain, si on perd Greg.
Ok, vas-y, j'y vais, c'est bon. Tout du long, il était prêt à dire merde à l'industrie. Attends. Tout du long, il était prêt à dire merde à l'industrie. Quand vous regardez la vidéo de Last Goodbye, à la toute fin, Jeff regarde droit vers la caméra d'un air énervé. Ce n'est pas de la comédie. Il était vraiment énervé d'être obligé de faire cette vidéo.
Cette vidéo de merde.
Non. Mais entre les allers-retours sur le montage, les incompréhensions entre les réalisateurs, plus le conflit permanent entre Jeff et Columbia, ce qui devait être une vidéo arty finit par être un gouffre financier. Personne n'est content du résultat. Pourtant, la vidéo est bel et bien envoyée à MTV. Le single marche bien et permet de booster les ventes. Objectif atteint.
Yeah!
Plusieurs mois après, il y aura un autre clip tourné pour So Real. Jeff dira là que c'est sa vidéo préférée. 4 minutes 38 de séquences surréalistes à l'humour absurde, sans doute inspiré par le mouvement d'art contemporain Fluxus, dans lequel il s'était pas mal investi lors de son arrivée à New York.
Alors, Fluxus, c'est quand même un truc un peu pointu. Hein. Pour moi, ouais. C'est Yoko Ono, tout ça,
exactement.
Machin. C'est ultra, ultra conceptuel.
C'est
quoi.
Des performances ouais, un peu post-beatnik, très perchées.
Ouais, c'est de la musique de beatnik. Alors, si tu veux bien, on remonte encore quelques mois en arrière pour que tu nous parles de l'histoire de la pochette de Grace.
Yes, on retourne à New York en début d'année 94. Jeff demande à Columbia d'embaucher pour faire sa pochette Mary Sear, qui le suit déjà depuis plusieurs années et qui avait signé la photo de couve du Live at Cheney. Pour cette séance cruciale, Jeff a en tête une image inspirée de l'album I'm Your Man de Leonard Cohen, où on voit le chanteur les yeux mi-clos avec les mains posées sur un micro vintage. Le shooting a lieu au studio Arcadia à Williamsburg, Brooklyn, avec une grosse équipe de directeurs artistiques, de stylistes, etc. Jeff, lui, qui ne s'habille qu'avec des fripes, sort un sac rempli de vieilles fringues froissées. Dedans, il y a la fameuse veste de femme lamée or dans laquelle il sera immortalisé. Pendant la séance, la chef de produit Léa Reed a entendu Jeff déclarer à Mary Sear
« Je serai ta muse, je veux que tu prennes des photos de moi pour toujours. »
Forever and ever. Je peux te dire que quand tu es photographe et que tu as ce genre de connexion avec un modèle, ça n'a vraiment pas de prix. Fin de l'aparté. Plusieurs maquettes de la pochette sont mises en place. Jeff choisit d'emblée cette image sur laquelle on le voit le visage incliné comme perdu dans ses pensées. À ce moment précis du shooting, en fait, il était en train d'écouter la version instrumentale du morceau Dream Brother qui n'était pas encore finalisée. Absorbé par la musique, comme coupé du monde, la musique en premier, voilà pourquoi Jeff a choisi cette photo-là. Ça n'a pas été simple de l'imposer, il a dû une fois de plus lutter avec Columbia, qui trouve l'image soudain trop tape à l'œil, trop gay. Pourquoi ce type qui refuse qu'on voit en lui un joli garçon miserait sur une imagerie aussi hollywoodienne? Et c'est tout le paradoxe du personnage. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus.
Ah, alors, j'ai très envie de l'entendre. Vas-y, vas-y, vas-y.
C'est qu'il ne pouvait pas se passer à côté de l'opportunité d'endosser le costume qui le faisait le plus rêver, celui de la chanteuse, oui, au féminin. En interview, c'est comme ça qu'il s'autodéfinissait, « a chanteuse with a penis ». Avec des idoles comme Judy Garland, Billie Holiday, Edith Piaf, Nina Simone et le glamour suranné des années 40-50, comment s'étonner que Jeff veuille s'inscrire dans cette filiation-là? Mais en tant qu'homme, faire ça à ce moment-là des 90s, en pleine vague grunge, moi je dis génie absolu.
Ah bah c'est clair, il a détonné, hein, notre ami Jeff.
Il a des couilles quand même. Hein.
Ouais, t'as tout dit, Greg. Greg, t'as tout dit. T'as tout dit, alors je crois que ça sera le mot de la fin. Merci. Alors, on a bien fait le tour de Grace. Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose?
Bah, que c'est le meilleur, le plus beau, le plus doué, je sais pas, des trucs comme ça.
Et qu'en plus, il a un excellent atout, c'est qu'il adore la France. On en a vaguement parlé.
Le plus beau pays du monde.
Mais on sait qu'il a eu un bon succès en France. En fait, le public américain, lui, à l'époque, il n'est pas très emballé. En France, c'est la folie. L'artiste, il est dans toutes les émissions de musique. Il commence à passer, d'ailleurs, à nulle part ailleurs. On le voit jouer en live en premier. Il y a les vidéos, regardez sur Internet, c'est génial. Et à l'été de 95, Jeff Buckley enregistre même un live à l'Olympia qui sera immortalisé sur un album devenu culte, voilà, comme d'ailleurs celui au Bataclan.
Ouais, il y a une petite anecdote, enfin un truc que j'aime énormément sur le live de l'Olympia, la version d'Alléluia. En fait, le public français fait ce truc qui apparemment n'est propre qu'à nous, qu'à notre peuple, c'est pendant les balades d'allumer des briquets. Et en fait, pendant que Jeff chante Alléluia, la salle entière s'illumine de petites lampes.
Briquet, ouais.
De petits briquets, et Jeff n'a jamais vu ça de sa vie. Et en fait, à un moment du morceau, on l'entend rire en disant « Mais vous êtes fous, quoi !» Genre, le public français, la manière dont vous m'accueillez, il n'avait jamais vécu ça. Et c'était les plus beaux concerts de sa vie, quoi.
Waouh. Bah écoute, je regrette de ne pas avoir été là. C'est le moment de faire le bilan sur ce disque culte des 90s. C'était comment d'écouter Grace en 2020? On va commencer par toi, Greg.
Bah, moi, je trouve que c'est toujours un album vraiment extraordinaire. J'ai adoré le réécouter.
Formidable, hein.
Formidable.
Un super album. Hein.
Mais
les chiens.
En même temps, ça m'a renvoyé vers un autre album de Jeff Buckley, paradoxalement. Ça m'a renvoyé vers My Sweetheart the Drunk. Et finalement, c'est cet album que j'écoutais le plus, qui a eu une influence énorme sur moi. Et donc, paradoxalement, je me suis rendu compte que j'écoutais moins Grace que cet album-là. Et
en fait, t'aimes pas trop Grace, tu préfères l'autre album. Quoi.
Ouais, exactement.
Ok,
c'est vrai,
merci.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Ok, toi, du coup, Oli.
Bah, moi, je vous en ai déjà un petit peu parlé au début de l'épisode, mais en effet, je l'écoute beaucoup plus Jeff Buckley maintenant qu'à l'époque, et ça reste un album que j'écoute très très régulièrement. Ça me met dans des espèces de phases de mélancolie assez profondes, parce qu'il t'amène vers ce genre de sentiment, et c'est assez fort, je trouve. Faut pas être très down quand tu écoutes Jeff Buckley, je trouve. Faut pas le prendre trop à la légère, parce qu'il a cette capacité avec sa voix, avec ses arrangements musicaux, de vraiment t'emmener assez loin, et je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Et voilà, de toute façon, c'est un album culte. Je pense qu'il n'y a pas vraiment photo là-dessus. Est tous.
Du coup, tu étais passé entre les gouttes à l'époque.
C'est ça.
Tu l'as rattrapé le temps et aujourd'hui, tu es
sidéré. Je suis complètement embarquée, absolument, à chaque fois. C'est vraiment, ça te prend. Il y a une sorte de tension sexuelle dans sa manière de chanter.
Ouh,
dans sa manière...
À fond.
Oui,
attends,
bien sûr.
Bien sûr.
Et c'est pas simplement parce que le mec est beau. C'est qu'il y a un truc, c'est vraiment, c'est hyper fort.
Mais ça, c'est quelque chose qui l'inspirait et qu'il a pris de cette influence indienne, la Nusrat Fateh Ali Khan, qui chantait une musique inspirée du soufi et qui était une manière
de faire
le lien avec le spirituel, en fait.
Voilà,
il y avait vraiment cette idée d'essayer de transcender par la musique, de véhiculer des émotions qui allaient t'amener dans une sorte de transe. Et de donner tout à
et ça marche
concert, c'est sublime. Ouais.
Oui, donc c'était limite un truc chamanique, en fait, ce que tu nous dis là.
Et ce qui, en revanche, me fait peur, c'est que c'est devenu une icône de par son destin tragique. Et je me méfie toujours un petit peu de cette réécriture aussi. Parce que finalement, si le mec avait vécu, qu'est-ce qu'il serait devenu? Quelle musique il aurait faite? Finalement, est-ce qu'on ne voit pas cet album-là par le prisme de
il aurait échoué au deuxième album, il aurait fini
peut-être.
Routier et il aurait pu toucher une guitare de sa vie, quoi.
Non, mais voilà, c'est toujours un petit peu difficile aussi quand il y a une réécriture de l'histoire, cette espèce de génie maudit où on aime toujours bien ces histoires-là, hein, parce qu'elles nous touchent, parce qu'elles nous bouleversent. Et là, en plus, avec un album comme ça, c'est très facile de s'engouffrer dans ce truc-là. Donc, oui, évidemment, je réécoute toujours avec grand, grand plaisir cet album.
Moi, je suis à deux doigts, écoute, de prendre ma retraite de radio cassette. Hein, ça y est, on a fait Grace. Que je peux attendre de plus de cette émission? Tu vois, je ne sais pas. Donc, non, mais c'est évidemment une merveille absolue. C'est un très, très grand plaisir de le réécouter. Ces dernières années, j'avais un petit peu moins écouté Jeff Buckley parce que j'avais tellement tout.
T'avais Ace of Base, Britney Spears à réécouter.
Tu veux dire qu'on t'a remis?
Et faut dire aussi qu'elle avait déjà les 4 DVD live, elle avait les 10 albums, les démos, les phases B, les lives, elle avait déjà tout. Donc forcément, il faut trouver quelque chose 20 ans plus tard à faire de Jeff Buckley.
Je pensais plus avoir grand chose à découvrir, et en fait, si, j'ai découvert aujourd'hui des choses qui. Alors, pas forcément sur Grace, mais Grace,
c'est
le meilleur album des 90s. Voilà, c'est lâché.
Non,
j'ai découvert. Alors, si je peux faire des petites recos, s'il y a des fans de Jeff Buckley qui nous écoutent, il y a un duo sublime avec Alim Kazimov, qui est un chanteur d'Azerbaïdjan, sur le live de l'Olympia, justement, une reprise de What Will You Say. Ça, c'était une grosse, grosse découverte pour moi, justement, de le voir pour la première fois, confronter ce rock et ce son oriental magnifique. Et j'ai adoré réécouter les trucs de Tim Buckley aussi. Bref, je sais pas.
On t'a refoutu les
beaucoup,
dents, en fait.
Ah bah
T'étais sorti de la drogue, Jeff Buckley, et on t'a fait replonger.
Ouais, ça a été des semaines. Là, ça a été des semaines.
Fais gaffe, tu
avant
vas prendre perpète.
Hein,
là, tu te fais choper, c'est chaud.
Des semaines H24 à l'écouter matin, midi, soir.
Bien sûr.
Je m'excuse auprès de mes voisins qui ont subi mes vocalises sur Mojopin
voilà. Dimanche matin.
Bisous.
Et toi, Manu, du coup?
Eh ben, écoute, alors, pas mal de similitudes avec toi, ma chère Oli, parce que figurez-vous que Jeff Buckley, j'étais passé à peu près à travers, parce que en fait, ce que je vous ai pas raconté, c'est que en quatrième, on m'a filé cet album entre les mains, mais je l'ai pas écouté. Je suis passé complètement à travers. Donc là, quand je le réécoute pour travailler cet album, en fait, c'est un truc auquel j'ose même pas m'affronter, parce qu'il y a le temps qui est passé par là, il y a l'histoire, il y a ce mec qui est devenu une icône, c'est devenu un truc intouchable. Moi, c'est le genre de truc qui clairement me fait peur, j'ose pas y aller, quoi. J'aime rentrer par la petite porte, etc. Et j'y suis venu, j'ai adoré. Je suis tombé, mais dedans, comme une groupie, comme toi, je pense, maintenant.
Si tu veux, je peux te prêter mes DVD.
Bah ouais, non, mais vraiment, j'ai vraiment découvert le type. Alors, j'ai bouffé la première version de Grace, j'ai bouffé quelques lives, etc. C'est juste génial.
Mais tu me disais, Manu, c'est pas si accessible que ça, finalement.
Alors,
quand Ouais. Quand tu te replonges dans ce que tu étais à 13-14 ans, finalement, la musique de Jeff Buckley, il y a beaucoup d'influences musicales, il y a le jazz, il y a des constructions de morceaux qui sont exactement, un peu liées au rock progressif.
C'est ça qui fait que
ils ne sont pas aussi directs et aussi accessibles que ce qu'on pouvait écouter à l'époque. Et voilà, ça reste des constructions de morceaux un petit peu complexes.
C'est des trucs adultes, en fait.
Ouais,
et que
ouais,
pour moi, à l'époque, qui écoutait peut-être les Smashing Pumpkins ou d'autres trucs, c'était beaucoup trop adulte pour moi, beaucoup plus trop lyrique. Effectivement, il y avait un côté jazz vocal. Et quand maintenant,
la classique aussi qui est très importante.
Ouais, et puis quand tu vois la manière dont sont construits les morceaux, on est loin du refrain, de l'habituel
couplet, refrain, chorus.
Ça, à la limite, si tu veux, c'est une histoire assez fréquente où tu t'attaches à un musicien dans tes jeunes années, puis tu y reviens et tu découvres toute la palette vraiment où t'étais passé à côté quand t'étais jeune.
J'ai envie de dire, Oli, c'est un peu notre faute qu'on merde.
Oui, mais là, en l'occurrence pour moi, et je pense que pour toi aussi, moi, c'est juste, je comprends pas ce qui s'est passé. Parce que j'avais toutes les... Vraiment, c'était immanquable pour moi. J'écoutais vraiment cette musique-là. Le mec était là, il existait. Bon, il était déjà mort à l'époque où j'aurais pu le... Donc, vraiment, j'aurais dû l'écouter et je sais pas ce qui s'est passé.
Mais c'est un album... Enfin, tu l'évoquais, Greg, c'est un album extrêmement exigeant. T'y rentres pas comme ça en deux secondes. C'est pas du Dennis Pop et du Max Martin.
Oui, non, mais
c'est
bien sûr.
Ouais. Bah oui, non, mais t'as tout dit, c'est un album qui est exigeant. Si vous ne l'avez jamais écouté, profitez de ce moment que vous avez pouvoir le découvrir pour la première fois. C'est génial.
Oh là là.
C'est vraiment génial, quoi.
J'envie les gens qui ne l'ont jamais entendu.
Ah non, mais écoutez-le pour faire l'amour pour une soirée entre amis chez vous tout seul. Ça marche, mais.
Pour faire l'amour avec vos amis.
Mais ouais, mais bien sûr.
Docteur Love.
Non, mais pensez-y, c'est bientôt l'hiver. Mettez-vous au chaud sous la couette avec Jeff. Ce sera mon conseil pour ce soir. C'est la fin de cette émission. On avait envie de partager avec vous notre avis sur ce disque culte des années 90. Je tiens à remercier les membres fidèles du Radio Cassette Crew. Fanny.
Merci à toi.
Grégoire.
Merci.
Olivia.
Bye bye.
Merci.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel album. Et en attendant, on se retrouve sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Lâchez vos commentaires. Et d'ailleurs, on a mis en place un vrai répondeur téléphonique sur Cassette. Et ouais. Alors ne zappez pas, on va écouter les messages que vous nous avez laissés tout de suite après le dernier titre de l'émission. Je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous pouvez nous appeler sur notre répondeur au 07 61 36 84 15, voilà, et vous donnez votre avis, vous pouvez même nous raconter une blague, en tout cas ça nous fera plaisir de vous entendre et on vous diffusera bien sûr à la fin de l'émission.
Si quelqu'un a vu Jeff en live à l'époque, je veux bien son témoignage, ça m'intéresse évidemment.
Alors on te donnera directement le numéro de portable de Fanny, avec qui tu pourras évidemment continuer.
Passer l'hiver sous la couette.
Allez, on se quitte maintenant avec Alléluia les petits chats. Gros bisous et cœur avec les doigts.
Bye.
Ciao.
Bye
bye, bye.
The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. We have
faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Well, baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah, hallelujah. Hallelujah, it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. 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 Hallelujah.
Oh, baby, baby, I won't let you fool. You know, none of me to doubting. Oh, baby, baby, I shouldn't let you go. None, 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 show me I don't want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I stay believe, stay believe. Na 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 na. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Merci Radio Cassette, bisous, bisous.
Bonjour mon petit Manu, bonjour à toute l'équipe de Radio Cassette. Merci pour votre dernier épisode sur, sur Britney Spears. C'était fort passionnant, comme toujours. Mais c'était un épisode marqué par un énorme mensonge. Hein, puisque Manu, tu disais avoir découvert Britney, je cite, en se foutant de la gueule de ton pote Arthur, qui avait reçu cet album via le Club Dial. Mais non, non, ce n'est pas vrai. Puisque bon, je suis Arthur en question, et j'ai jamais reçu cet album par le Club Dial, non. Donc je m'étais dit, j'allais vous laisser un message avec toute la vérité, rien que la vérité sur cette affaire. Après, je pense que ça serait un peu trop long sur un répondeur. Je doute que ma vie perso ait sa place ici. Mais j'en profite pour vous suggérer, pour un prochain épisode de Radio Cassette, que faire un épisode sur le Club Dial, ça serait hyper, hyper intéressant. Parce que le Club Dial, c'est peut-être l'une des plus belles arnaques musicales des années 90. Et il y a à dire. Il y a matière. Allez, voilà, à plus. Longue vie Radio Cassette. Ciao.